Coucou, c'est Lizzie Krodaker pour le premier véritable épisode de Croisserie, un podcast dédié à, en gros, mes élucubrations sur la fiction en général au sens large, donc que ce soit la littérature, l'écriture, mais aussi les jeux vidéo, etc. L'idée de cet épisode, ça vient d'un sentiment de culpabilité que je pouvais avoir parce que je suis une autrice de romans, et je lis pas beaucoup de romans, en tout cas pas tant que ça pour une autrice de romans. Et forcément, une écrivaine devrait lire beaucoup de romans quand même, enfin une écrivaine de romans devrait lire beaucoup de romans. Donc j'avais un peu deux idées de podcast à la base, mais je vais pas les faire là-dessus. La première, c'est est-ce que c'est grave de pas lire tant que ça? Et au final, ma réponse, c'était en gros pas tant que ça finalement, ou je pense pas en tout cas, j'espère pas. Et voilà, ça pouvait à peu près s'arrêter là. La deuxième idée que j'avais, c'était, bon, ok, ça c'est pour la lecture de romans, mais je peux lire, regarder ou jouer à d'autres fictions. Donc que ce soit des films, du cinéma, des séries télé, des jeux vidéo, etc. Est-ce que ça peut aider pour écrire de la fiction et en particulier donc des romans? Et je pense que la réponse, c'est oui. Peut-être pas autant, parce qu'on va pas forcément pouvoir comprendre comment, je sais pas, les descriptions ça marche par exemple, etc. dans le cinéma, parce que si on regarde un film, on va pas avoir les descriptions des personnages, de leurs actions et tout ça. Mais il y a beaucoup d'éléments en commun sur la structure du récit, les dialogues, ce genre de choses. Alors pour les jeux vidéo, évidemment, je parle des jeux vidéo où il y a une histoire. Je parle pas de Tetris ou de F1 2019 ou je sais pas, ce genre de jeu. Donc ces deux sujets, je ne me sentais pas de développer dessus plus que ça, et de faire quelque chose qui aurait une durée, on va dire, d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc il me restait une question potentielle, je suis désolé pour le son. Il y a le chat qui me tourne autour et qui, voilà, qui dit bonjour. Donc il me restait une question, c'est, ok, je lis pas forcément beaucoup de romans, mais je passe beaucoup de temps à lire sur Twitter, donc ça doit bien compter pour quelque chose, non? Non? Peut-être. Alors évidemment, c'était un peu une blague, mais en même temps, en y réfléchissant sérieusement, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à en tirer. Et qu'il y a une part de vrai. Et je parle pas que de Twitter, des réseaux sociaux, etc. Mais on va dire tout ce qui relève de la non-fiction. C'est-à-dire les articles de journaux, des livres qui ont un caractère autobiographique, mais aussi, je sais pas, tout ce qui est oral en fait. Donc, toutes les anecdotes orales. Donc que ce soit par exemple le copain Dédé qui raconte ses mésaventures parce qu'il est parti en stop pendant les vacances et il n'y a personne qui voulait le prendre en stop, je sais pas. Et le point commun de tout ça, c'est que ça raconte des histoires, même si ce n'est pas des histoires de fiction. Je vais pas parler ici de l'aspect sur les informations qu'on peut glaner ou sur les sources d'inspiration que ça peut donner ou mieux comprendre, je sais pas, tel ou tel sujet d'actualité ou pas d'actualité. Parce que ça paraît un peu évident, c'est-à-dire, c'est évidemment, si tu lis, je sais pas, une autobiographie de quelqu'un qui a participé en tant que soldat dans la Seconde Guerre mondiale, ça peut être intéressant si tu veux écrire un roman qui se passe dans cette période. D'ailleurs, j'en profite pour donner une astuce en tant qu'écrivaine, c'est que le bon côté d'être auteur, c'est que tu te plantes jamais vraiment à regarder un film, à aller dans un bar, à lire un journal, à regarder un Grand Prix de Formule 1, peu importe, tout ça. Tu peux toujours dire que c'est une forme de travail de recherche pour un potentiel roman que tu pourrais écrire un jour. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne. Voilà, c'est gratuit. Et juste une autre précision, c'est que je pense. Des fois, j'entends je suis pas auteur, mais conteur. Et ça rejoint peut-être un peu ce que je discutais là, et en même temps, je sais pas. Parce que pour moi, l'expression je suis pas auteur, mais conteur, elle est quand même. En fait, personne. Enfin, personne. Il n'y a pas grand monde qui se dit conteur. C'est-à-dire que la personne qui raconte des histoires à ses enfants avant qu'ils se couchent, elle va pas forcément se dire conteuse. Pareil, le manifestant qui va raconter sa manif et comment il y a eu des lacrymos et une charge de police, etc., ce manifestant, il va pas se dire conteur. Ça va être vraiment. Enfin, j'ai l'impression que conteur, il y a. Bon, il y a effectivement peut-être des gens qui font de l'animation, etc., mais c'est surtout tous ces pas auteurs mais conteurs qui se disent conteurs en fait. Et du coup, ça revient. Pas plus large en fait quoi. J'imagine que pas auteur mais pilier de bar, c'était moins classe. Alors juste avant de continuer, je voudrais préciser un truc, c'est que j'avais déjà enregistré ce podcast une fois, Et j'ai perdu le fichier, donc je vais vous expliquer comment. Et je vais en profiter justement pour lire ce que j'avais posté sur Twitter sur cette anecdote. Donc voilà, ça c'est le fil Twitter que j'avais posté juste après donc avoir perdu tout le fichier audio que j'avais créé. Purée, je me déteste. Donc je viens de perdre un podcast que j'avais réussi à enregistrer. Gna gna, faut faire des sauvegardes, vous allez me dire. Non, mais le problème, c'est même pas ça. À ce stade, c'est juste faut pas être complètement con. Pour situer, il était enregistré via mon enregistreur et donc stocké dessus. Au moment de le transférer sur l'ordi, je me suis dit, je vais gagner du temps. Au lieu de copier le fichier, je vais le déplacer et supprimer l'original. Bon, pas malin déjà. Où donc je copie ce fichier? Oh, je vais le modifier, donc pour l'instant, je vais le mettre dans slash tmp. Sous Linux, slash tmp s'est effacé à chaque reboot. Et en l'occurrence, chez moi, c'est pas sur le disque dur, c'est mappé dans la RAM. Vraiment, ça aurait pas été de chance que l'ordi plante quand j'ai édité le fichier, dites donc. Fichier que j'ai bien évidemment édité dans Audacity, en choisissant travailler directement sur le fichier, plutôt que copier le fichier, ce qui aurait pu permettre de le récupérer. Moralité, faire des copies de secours, c'est bien, mais on peut déjà commencer par Caps Lock, ne pas tout faire pour qu'il n'y ait pas de copie de secours. Ouais, donc c'est une anecdote assez nulle, hein, mais qui explique un peu pourquoi, que c'est, enfin surtout qui explique un peu que c'est la deuxième fois que je fais cet enregistrement, que ça commence à être un peu fatigant, mais voilà. Et ce que je veux dire surtout, c'est que c'est déjà une forme d'histoire, en fait. Et je voulais prendre cet exemple, pas parce que je suis auto-centré, mais parce que je viens de le faire, je viens d'écrire ça. Donc j'avais sous la main, et j'avais pas trop envie de lire d'autres histoires, d'autres anecdotes, d'autres gens, en fait, sur Twitter, parce que ben, je suis pas forcément leur accord pour lire ça dans un podcast, même s'il y en a qui sont parfois super drôles, super touchantes, etc. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est assez présent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des embrouilles ou des partages de liens, de la promotion, ou alors des shitstorms, mais il y a aussi beaucoup d'histoires personnelles, en fait, qui vont de l'anecdote drôle au témoignage d'agression trash, en passant par exemple, live tweet d'événement, donc quelqu'un qui est en manifestation, qui va faire un compte-rendu de la manifestation. Et tout ça, en fait, c'est... Déjà, c'est intéressant parce que voilà, ça permet de s'ouvrir sur d'autres gens, etc. Mais c'est aussi intéressant quand tu écris des histoires à la première personne. Parce que quand tu écris des romans qui sont écrits à la première personne, c'est quand même censé vaguement ressembler à ce que des gens peuvent raconter de ce qui leur est vraiment arrivé. Et juste un petit point, historiquement, en gros, enfin, le rapport en fait, entre les romans écrits à la première personne et la véritable écriture à la première personne, c'est-à-dire les gens qui vont parler du réel en écrivant à la première personne. Avant que les romans deviennent reconnus et un peu omniprésents, quand c'était considéré comme un art, un sous-art un peu, comme peuvent les jeux vidéo maintenant, il fallait justifier en fait. Il fallait commencer le roman, par exemple, en disant j'écris ces lignes depuis mon bureau retranché chez moi, etc., etc. Pour situer en fait où était le personnage narrateur qui écrivait par rapport au personnage acteur, on va dire, qui avait vécu les événements. Et typiquement, on avait aussi beaucoup de choses qui étaient censées être des lettres, toute la tradition épistolaire, alors, de façon plus ou moins réaliste, parce que parfois on a cher monsieur, chère madame, je vous écris, et puis, pouf, un roman qui est censé être une lettre. Alors, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent à quelqu'un en leur balançant 300 pages à la figure. Mais voilà, c'était quelque chose, du coup, qui cherchait vraiment à se rapprocher de ce que pouvaient être les façons dont étaient racontées vraiment les histoires, en tout cas par certains côtés, parce qu'après au niveau du style, de la façon d'écrire, ça ne correspondait pas forcément. Maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup moins vrai. C'est-à-dire, il y a toujours des puristes pour dire non, mais le problème d'un roman écrit à la première personne, c'est qu'on sait que le narrateur ne va pas mourir. C'est pas forcément vrai en fait. Maintenant, on peut tout à fait avoir un roman écrit à la première personne avec le narrateur qui meurt, ou un changement de narrateur, ou ce genre de choses. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui était, enfin, qui a un peu façonné la façon d'écriture à la première personne. Donc ça peut être intéressant d'essayer de comparer un peu les traditions, on va dire, épistolaires, etc., à la façon d'écrire maintenant, qui est, bah, les gens envoient moins de courriers, et ça passe beaucoup par Twitter, etc. Alors évidemment, c'est pas de la fiction, hein, ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc., c'est des événements qui sont réels, mais qui sont racontés. Donc il y a une part de narration. Et parfois, c'est des événements qui sont tout aussi improbables que ce qu'on pourrait trouver dans un roman. voire plus improbable, puisque dans un roman, il y a toujours il faut que ce soit crédible quand même, un minimum. Il y a une phrase que j'ai souvent entendue, c'est ça pourra pas être dans un roman, dans de la fiction, dans un film, parce que c'est pas assez réaliste quelque part. C'est trop irréaliste pour être dans de la fiction, trop irréaliste pour être dans de la fiction. Voilà. Le côté un peu paradoxal. Je pense que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, quand on regarde comment des gens justifient des choses un peu improbables, qui sortent de nulle part, etc., bah c'est qu'en général, il y a besoin de les justifier. Donc ça peut être, par exemple, de façon très simple, hein, je sais que ça va vous paraître improbable, mais je vous le jure, c'est comme ça que c'est arrivé. Moi-même, je n'y aurais pas cru avant, mais ça peut être des choses plus, de façon plus, comment dire, plus argumentées, en allant citer des sources, en mettant des liens, etc. Ce qu'on peut moins faire dans un roman, pour le coup, enfin, on peut le faire, mais c'est un peu rébarbatif. Évidemment, c'est pas de la fiction, mais ça n'empêche pas que c'est de la narration, donc c'est raconté, avec des mécanismes qu'on peut aussi retrouver dans la fiction, comme la façon de garder l'attention de l'auditoire ou du lectorat, on va dire, ou de sa TL sur Twitter, des façons de ménager un peu le suspense, mais aussi parfois des façons d'expliquer un peu les liens de causalité qui peuvent ne pas forcément paraître évidents quand on les a vécus au moment même, en mettant des liens un peu de. Parce que dans une histoire, en fait, il faut. C'est toujours un événement entraîne un autre événement, entraîne un autre événement, etc. Donc il y a toujours un lien de causalité. Alors que dans la vraie vie, bah, des fois, il y a un événement, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Puis c'est dur de trouver une origine simple à un seul événement. Et je pense que c'est aussi dans cette façon de vouloir chercher, parfois, en fait, dans des liens de causalité simples. Ça permet de raconter une meilleure histoire, quelque part. Et je pense que c'est aussi ça où il y a parfois une dérive un peu complotiste qu'il peut y avoir quand on veut l'appliquer beaucoup trop au réel. Donc c'est ce que ça va donner, bah, des choses comme ce qu'on avait pu avoir après les attentats à Charlie Hebdo, où du coup il y avait un délire complotiste parce qu'il y avait un des terroristes qui avait oublié sa carte d'identité dans une voiture, je crois. Et ça, typiquement, dans une histoire, c'est mauvais. Il faut qu'il y ait une explication, il faut qu'il y ait une causalité, faut qu'il y ait une motivation derrière, etc. Donc forcément, c'est que c'était un coup fourré pour qu'on croie que c'était quelqu'un d'autre, etc., etc. Ça peut pas juste être, ben en fait, oui, les gens, parfois, dans la vraie vie, ils font des bêtises, ils sont pas parfaits, il y a des coïncidences, l'aléatoire, etc. Et il n'y a pas forcément toujours une explication facile et simple. Donc je vais prendre quelques exemples un peu de différents médias, donc soit articles de journaux, des comptes rendus ou des discussions, enfin des anecdotes sur les réseaux sociaux. Alors, par exemple, ce que je trouve intéressant, les articles de journaux, disons les comptes rendus de manifestations, qui sont des éléments, on parle d'événements, comptes rendus sur des médias militants, par exemple, qui ont parlé de manifestations, ou ce genre de choses, en fait, on parle, il y a quelqu'un qui va raconter un événement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent un mélange entre une narration omnisciente, donc ce qu'on appelle la narration en troisième personne, où du coup on va avoir un narrateur omniscient qui va raconter tous les événements, le nombre de policiers, les déclarations qu'il y a eu après à la préfecture, etc., etc. Alors évidemment, quand c'est un journaliste qui écrit, c'est pas omniscient, parce que le journaliste n'est pas omniscient, mais la façon dont il présente les choses, dont il présente les faits, avec un peu l'impartialité, la neutralité journalistique ou je sais pas quoi, c'est une façon qui est assez proche en fait de ce qu'on peut trouver dans les romans avec un narrateur omniscient. Et ça va se mélanger, parfois dans le même article, avec une narration plus proche du terrain, qui va être souvent la première personne, ou qui va être, par exemple, j'ai suivi machin dans une ruelle, qui m'a parlé de telle chose, et là ça passe en mode interview avec tel militant ou tel policier, ou je sais pas quoi. Un autre exemple dont je voulais parler, c'est quelque chose qui peut pas paraître littéraire du tout, qui l'est pas, c'est les comptes rendus de réunion. Donc, par exemple, un compte rendu d'Assemblée Générale. Et ça, c'est quelque chose qui paraît chiant et pas littéraire. Et pourtant, il y a des choses que je trouve super intéressantes d'un point de vue de la narration, justement. C'est qu'on peut avoir un compte rendu où il est marqué Dédé propose que la prochaine réunion ait lieu dimanche. Sauf qu'il y a un twist, parce qu'il peut y avoir des twists dans les comptes rendus de réunion. C'est que si on remonte au tout début du compte rendu, on va voir que bon, il y a la liste des présents. Il va avoir marqué prise de notes DD. Donc ça veut dire que c'est DD qui a pris les notes. DD est le narrateur. Mais Dédé parle aussi de Dédé à la troisième personne. Dédé aussi personnage à la troisième personne, c'est un peu bizarre. Donc on a un narrateur qui fait partie des événements, mais qui raconte à la troisième personne. Et ça fait pas partie du tout des cas prévus en fait. Quand on pense à écrire un roman à la première personne, on pense à écrire un roman à la première personne, pas écrire un roman à la troisième personne, mais où en fait le narrateur qui écrit à la troisième personne serait un personnage du roman. C'est quelque chose qui. Enfin, je pense que si vous dites que vous allez faire ça sur un forum d'écrivains, vous faites taper sur les doigts quoi. Et le pire, c'est qu'il y a un autre twist potentiel, c'est qu'en fait, c'est difficile de prendre des notes et de parler en même temps. Donc, c'est tout à fait possible que Dédé ne soit pas le narrateur de la partie Dédé propose que la prochaine réunion ait lieu le dimanche, mais qu'en fait, il ait passé la feuille ou l'ordinateur à son voisin ou à sa voisine le temps où il parlait. Donc, c'est-à-dire que dans le compte rendu, on a un changement de narrateur, juste le temps d'un paragraphe qui n'est pas du tout indiqué, et ça, on n'oserait pas du tout le faire dans un roman. En fait, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça fait relativiser un peu les soucis qu'il y a. Parce que des fois, en fait, quand on vous dit, voilà, la première personne, si vous écrivez à la première personne et si le personnage parle de choses qu'il n'est pas censé savoir ou pas censé avoir vu ou je sais pas quoi, ben c'est pas bien, ça casse l'immersion, etc. Mais c'est quelque chose avec lequel on ne s'embête absolument pas quand on écrit vraiment quand on décrit vraiment des événements, en fait. Et ça peut faire relativiser les soucis justement. Donc sur le cas du quand on écrit à la première personne, on sait que le narrateur ne va pas mourir. Bah en fait, si on peut avoir le narrateur et la narrative qui se retrouvent soit absent ou absente, dans le coma ou mort ou morte, et en fait, ça peut être simplement quelqu'un d'autre qui reprend la narration, ou une narration qui change, etc. Alors en général, dans un roman, ce sera un peu plus indiqué qui est le narrateur exactement. Mais voilà. Troisième exemple que je vais prendre, c'est qui n'est pas vraiment un exemple concret, mais c'est sur les réseaux sociaux. Pour le coup, il y a un côté plus spontané, plus direct, plus oral. Et quelque part, donc, ça se rapproche peut-être vraiment de la narration à la première personne qui est pas distante. C'est-à-dire, ce serait plutôt la première personne au présent. Et en fait, c'est oral, même si c'est l'écrit, c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est pas oral, évidemment, mais c'est une façon d'expression qui est très proche de l'oral. En même temps, c'est l'écrit. Du coup, on va intégrer des choses comme des émojis, des images. Une forme de jeu sur l'utilisation par exemple des majuscules, ce dont j'abuse personnellement et dont j'ai abusé complètement dans le petit fil Twitter que je vous ai lu dans le début de ce podcast. Ça peut être aussi un jeu sur la ponctuation, l'orthographe, etc. Et une autre chose que je trouve intéressante, notamment sur Twitter, c'est qu'il va y avoir un découpage en tweet, parce que Twitter, on peut mettre que 280 caractères, donc si on a une histoire un peu longue à raconter, une anecdote un peu longue, il va falloir les découper en plusieurs tweets. Alors il y a des gens, bon, ils ne vont pas s'embêter, ils vont juste faire ça, faire rentrer le maximum de mots dans chaque tweet, et puis ensuite copier le reste dans un autre tweet, etc. Mais souvent, en fait, les gens, ils vont avoir tendance quand même à jouer un peu sur ce découpage, à se dire, bah, en fait, il reste un peu de place dans le tweet, mais j'ai quand même m'arrêté là, parce que ça laisse un élément de suspense, et pendant que je poste le reste, les gens vont se demander ce qui s'est passé ensuite, etc. Et ça, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est pas si éloigné, en fait, de la façon dont on peut découper des lignes de dialogue en fait dans un roman, et en particulier des lignes de monologue. Traditionnellement, en fait, dans un roman, quand il y a un personnage qui va faire un grand monologue, qui va raconter un événement, une anecdote, un témoignage, quelque chose qui lui est arrivé, donc par exemple dans Sherlock Holmes, quand il y a la personne qui engage Sherlock Holmes qui va expliquer l'affaire, donc typiquement il va faire un grand monologue. Et dans Sherlock Holmes, c'est la façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir un gros pavé de texte avec plein de paragraphes. Sauf que maintenant, c'est plus trop la façon dont on le fait. En tout cas, moi, je sais que c'est un truc que j'évite de faire maintenant. C'est que j'ai plutôt d'avoir tendance à séparer chaque paragraphe en lignes de dialogue pour aérer un peu, couper avec des actions du personnage. Donc, par exemple, il a repris sa respiration, ce genre de choses. Il fait une pause, a pris le temps d'examiner son auditoire, etc. Éventuellement, d'insérer des réactions d'autres personnages qui vont peut-être poser une question qui va relancer pour casser un peu le monologue et en faire un dialogue. Ce qui est intéressant, en fait, ouais, c'est que ça, par certains côtés, ça peut ressembler à la façon dont on découperait sur Twitter en plusieurs tweets. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas pour dire qu'il faut pas, enfin, qu'il n'y a pas besoin de lire de la fiction pour écrire de la fiction. Je pense que si on veut écrire des romans, c'est bien de lire un minimum de romans quand même si je ne le fais pas assez. Ne serait-ce que ben, pour connaître les codes, etc. Alors, évidemment, on peut aussi essayer de lire des choses, comment écrire des romans, à la place de lire des romans. Mais sauf qu'en général, je pense qu'ils vont vous dire faut lire des romans, donc ça on ne gagne pas forcément, on ne peut pas forcément faire l'impasse là-dessus. Mais voilà, c'était surtout pour en fait partir d'une idée un peu stupide, c'est-à-dire bon, ça va, j'ai pas de romans multi-tuteurs, donc ça va. Et finalement, de voir que en fait, c'est pas si stupide de ça, que les gens aussi, ils racontent des histoires dans d'autres cadres, parfois de façon brillante, que ce soit drôle ou triste ou informatif, etc. En fait, enfin, des fois, c'est vraiment que ce soit dans des journaux, évidemment, parce que les gens, c'est des journalistes, ils sont quand même payés pour écrire, donc il y a côté. Forcément, il y en a qui ont des belles plumes, mais aussi sur Twitter, ou simplement quand il y a quelqu'un qui raconte à l'oral des histoires qui arrivent à vous captiver en vous racontant quelque chose qui lui arrivait alors que en soi vous vous en foutez un peu. Et en fait voilà, prêter attention à toutes ces histoires, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant si on écrit de la fiction. Pas juste pour le contenu, même si voilà, enfin, écouter les gens c'est bien dans la vie, mais aussi voilà la façon dont c'est la façon dont on raconte selon les différents médias, je trouve ça intéressant. Et notamment si on écrit de la fiction qui est écrite à la première personne, parce que à la base, l'écriture à la première personne, ça s'inspire de l'écriture de lettres, donc s'inspirer aussi de l'écriture sur les réseaux sociaux ou des discussions orales, c'est quelque chose qui paraît pas forcément stupide. Et c'est aussi intéressant pour voir que finalement, quand on. Il y a certaines règles sur le point de vue du narrateur qu'il faudrait utiliser que comme ça, il faudrait bien avoir. Il y a des choses qui seraient intéressantes, etc. De les nuancer un peu et de voir que c'est quelque chose qu'on peut aussi faire spontanément. Quand on raconte une histoire qui est vraiment arrivée, donc c'est pas forcément si irréaliste entre guillemets que ça et pas si absurde. C'est juste une question de codes en fait qui sont plus ou moins acceptés dans le roman et qui peuvent évoluer en fait. Enfin, les codes du roman actuel ne sont pas du tout les codes du roman du 19e siècle par exemple. Voilà, ce premier épisode de Croisserie est terminé. Si ça vous a plu, vous pouvez évidemment liker, partager, sacrifier un poulet et faire en gros ce que vous voulez. Voilà, ciao ciao et à la prochaine peut-être.